attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club mythique du rugby français, l'association sportive Montferrand-Clermont-Auvergne, ASM. Clermont-Ferrand va devenir une des villes les plus sportives de France grâce au bienveillant concours de Michelin. Le club a été créé le 11 octobre 1911 par Marcel Michelin, fils d'André Michelin, le cofondateur de la Société française des pneumatiques Michelin avec Édouard Michelin. Marcel Michelin, résistant, est mort en déportation à Buchenwald en 1945 à l'âge de 58 ans. Au commencement de l'histoire, il était question d'occuper sainement les employés de la manufacture à travers l'association sportive Michelin, qui allait devenir ensuite AS Montferrandaise en août 1922, ce qui ne lui évitera pas le procès en amateurisme et une mise à l'index d'une saison entière. Depuis, et cela fait donc 95 ans, l'ASM occupe une place dans l'élite du rugby français, sans connaître les affres de la relégation. Un exploit que seul le Stade toulousain partage. Après 10 finales perdues, Clermont obtient le Graal en 2010, un premier titre de champion de France face à Perpignan, 19-6. Mais retour sur ces 10 finales perdues. En 1936, Narbonne est champion de France en battant Montferrand 6-3, 2 essais à rien. En 1937, Montferrand est favori, mais doit s'incliner devant un outsider, Vienne, 13-7. L'ailier Marius Bellot se blesse après 10 minutes de jeu. Montferrand jouera donc à 14 contre 15 toute la partie. En 1970, Montferrand s'incline face à la Voulte, 3-0, à Toulouse. La cité ardéchoise compte moins de 6000 habitants en 1970, mais possède dans ses rangs les frères Guy et Lilian Cambera-Béro, venus de leur lande natale, Saint-Vincent de Tyros, en 1955. Leur père est contremaître à l'usine Ronde-Poulain, dont le directeur est le fondateur du club. En raison d'un vent tourbillonnant, les lutins ne sont pas en réussite. Montferrand favori s'est encore fait surprendre. En 1978, Montferrand ne pèse pas lourd et est battu 31-9 par Béziers, 5 essais à rien. Béziers qui marque aussi la fin d'une époque, celle de Richard Astre et celle de l'entraîneur Raoul Barrière, le sorcier de Soclière, qui tire leur révérence. En 1994, Montferrand est battu par Toulouse 22-16 et surtout par un homme, Christophe Dello, auteur ce jour-là des 17 points sur 22 de son équipe. En 1999, Montferrand s'incline de nouveau face à Toulouse, 15-11. L'ouvreur montferrandais Gérald Merceron rate 4 pénalités et l'ouvreur All Black toulousain Statnes fait la différence. Montferrand est dans le match, mais s'incline encore. En 2001, Montferrand s'inclinera sur un score plus large, toujours face à Toulouse, 34-22. La jeune vague toulousaine, Michalak, Jean-Jean, Poitrenaud, Delegue, Bouillou, va marquer l'histoire du Stade toulousain. En 2007, Montferrand est battu par le Stade français, 23-18. Ce sont deux Argentins, Augustine Pichotte et Juan Martín Hernández, qui portent l'estocade. Ce 5e titre en 9 ans marquera la fin d'une époque dorée pour les Parisiens. Quant à l'entraîneur clermontois, Van Cotterne, ils devront ravaler leur déception 2 fois encore en 2008 et 2009, avant de toucher enfin le bout de bois en 2010. En 2008, c'est Toulouse qui l'emporte, 26-20. Clermont a été 2 fois vainqueur des stadistes en phase régulière, mais Toulouse est la bête noire. Un grand Jean-Baptiste Elissalde à l'ouverture est le grand artisan de la victoire toulousaine. En 2009, c'est Perpignan qui l'emporte 22-13, grâce à un essai de David Marty. et la botte de l'arrière Jérôme Porical, l'ouvreur néo-zélandais Dan Parker, fait un passage remarqué au club catalan. En 2010, après 99 ans de frustration, 10 finales perdues, Clermont bat Perpignan 19-6. Le demi de mêlée et buteur Morgan Parra se révèle au grand public, marquant 11 points. Jérôme Porical n'est pas en réussite, mais Clermont compte 7 internationaux qui ont réalisé le grand chelem. Parra, Rougerie, Lapendrie, Domingo, Bonner, Malzieu et Pierre. Il mérite amplement son succès. Le public patient, massif et fidèle, plus de 60 000 personnes, saluent l'armée jaune en place de Jaude. Le deuxième titre de Clermont intervient en 2017 face à Toulon, 22-16. À l'arrivée, un essai transformé de chaque côté, mais 5 pénalités inscrites au bénéfice de Clermont, contre seulement 3 pour Toulon. C'est arithmétique. La victoire ne pouvait échapper à des jaunards pour une fois rigolards. Cependant, Clermont aura connu sur la période 2010-2020 deux autres défaites en finale. En 2015, contre le Stade français, sur le score de 12-6, Clermont ratant de nombreuses pénalités. En 2019, face au Stade toulousain, sur le score de 24-18. Toulouse, la bête noire. Sevré de titre de champion de France depuis 2012, le Stade toulousain a décroché son 20e bouclier de Brennus. Une victoire logique pour les hommes du Gomola qui ont maîtrisé cette rencontre du début à la fin. Et une finale, ça se gagne. Sur la scène européenne, l'ASM a remporté le challenge européen à 3 reprises, 1999, 2007 et 2019. Il a atteint 3 fois la finale de la Coupe d'Europe, 2013, 2015 et 2016. Galerie de portraits. Une des premières figures historiques de l'ASM est Bernard Chevalier. Il est né le 7 septembre 1925 à Rougna. Il a exercé la profession d'agent de service d'exploitation de la SNCF. Il fut en deuxième ligne de devoir aux dimensions athlétiques exceptionnelles qui porta le maillot morfé-rendais de 1950 à 1965. Après une carrière internationale fulgurante, 25 sélections, son éviction du 15 de France provoqua l'indignation de la presse. Sans doute par manque d'explications cohérentes des responsables tricolores, si ce n'est qu'il pouvait pousser trop fort de son côté et déséquilibrer la mêlée. Il est décédé en 2018. Jean-Pierre Romeu est né le 15 avril 1948 à Thuir, dans les Pyrénées-Orientales. À 17-18 ans, il travaille dans les mines de houille de sa région. Il a évolué comme demi d'ouverture à l'US Carmo, puis à l'AS Montferrand. Il compte 34 sélections en équipe de France de 1972 à 1977. Il est du Grand Chelem de 1977. Il fut généralement associé à l'équipe de France, à Jacques Fourroux. Jean-Marc Lhermé est né le 14 août 1967 à Montluçon. Il joue avec l'AS Montferrand de 1987 à 1999 et avec l'équipe de France de 1990 à 1993. Après sa carrière de joueur, il reste à l'AS Montferrand. Il dirige d'abord le centre de formation, puis il devient le directeur sportif de l'ASM Clermont-Auvergne en 2004 et vice-président en 2008. En 2016, il quitte le poste de directeur sportif pour mener un nouveau projet de développement du club clermontois, dont l'objectif est d'anticiper la mutation de ce sport avant de quitter finalement le club en 2021. Depuis 2021, il travaille au sein de la cellule haute performance de l'Agence nationale du sport. Philippe Saint-André est né le 19 avril 1967 à Romans-sur-Isère. Au départ, c'est un espoir du tennis français qui décide d'exprimer ses qualités au rugby avec l'US Romans avant de partir à Montferrand. Appelé en équipe de France en 1990, il s'impose rapidement à l'aile. Il a du punch, il est batailleur et opportuniste, difficile à arrêter à proximité de la ligne de but. Il compte 69 sélections en équipe de France de 1990 à 1997. L'entraîneur Pierre Berbizier en fait son capitaine. Ensemble, ils réussiront ce tour de force en Nouvelle-Zélande en 1994 avec ce qu'on a appelé l'essai du bout du monde, le 3 juillet 1994. Ils devront se contenter d'une troisième place lors de la Coupe du Monde de 1995, battue par l'Afrique du Sud après une demi-finale crève-cœur. À partir de 1998, il est également entraîneur de son dernier club, Gloucester, avant de revenir entraîneur du CS Bourgoin-Jallieu en France de 2002 à 2004. Il part de nouveau en Angleterre et remporte un titre de champion en 2006 avec Sale. Il posera ses valises à Toulon en 2009, avant de succéder à Marc Lièvremont à la tête de l'équipe de France, pour ce qui allait constituer le bilan le plus catastrophique de l'entraîneur des Bleus. La France est lourdement éliminée par les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde 2015. Il est actuellement manager de Montpellier, le champion de France 2022. Deux joueurs prénommés Olivier ont marqué l'histoire du club montferrandais. L'un en début de carrière, avec Olivier Merle, dit le Massif Central ou l'homme et demi, né en 1965, 45 sélections à l'équipe de France de 1993 à 1997, un grand chelem 1997, mais deux finales perdues de championnat, dont une avec Montferrand en 1999. L'autre, en fin de carrière, Olivier Magne, dit Charlie, né en 1973, 90 sélections en équipe de France de 1997 à 2007, mais chat noir des finales, une Coupe d'Europe avec Brive, deux de championnat avec Montferrand. Aurélien Rougerie est né le 26 septembre 1980 à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme. Fils d'une première ligne internationale de l'AS Montferrand et d'une basketteuse des Demoiselles de Clermont, elle aussi internationale, Aurélien Rougerie aura incarné sa ville et son club tout au long de sa carrière. Il est surnommé par la presse sportive le Loup-mou blanc, en référence aux qualités athlétiques et sportives dont il dispose et qui rappellent celles de l'ancienne star All Black, Jonah Lomu. Il signe avec l'ASM son premier contrat professionnel en 1999 et il achève sa carrière de joueur de rugby professionnel face à Toulouse, le 5 mai 2018, toujours sous le maillot de Clermont. Il aura ramené le bouclier de Brennus sur la place de Jaude, après un siècle d'attente et 10 finales perdues. En équipe de France, il a été la révélation du Grand Chelem 2002, a aligné 76 sélections et disputé 3 Coupes du Monde. Morgan Parra est né en 1988 à Metz et n'était pas géographiquement programmé pour jouer au rugby. À 15 ans, il quitte le cocon familial pour la section sport-études de Dijon. À 17 ans, il est recruté par Bourgoin-Jallieu. À 20 ans, ce sera l'équipe de France et le départ pour Clermont-Ferrand. 59 sélections en équipe nationale. C'est un chef de meute, excellent au pied, bon passeur, bon gestionnaire, un grand demi de mêlée. Il vient de quitter Clermont pour le Stade français. Clermont-Ferrand est la 22e commune de France, avec 148 000 habitants. Elle est connue pour sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, cathédrale gothique édifiée à partir de 1248 au centre de la ville de Clermont, la capitale historique de l'Auvergne. La majeure partie de la construction actuelle date de la seconde moitié du 13e siècle, c'est le premier exemple d'utilisation en architecture de la pierre de Volvic. La façade occidentale et d'autres rénovations ont été effectuées par Eugène Viollet-le-Duc au cours de la seconde moitié du 19e siècle. En 1832, Aristide Barbier et Édouard Daubré fondent une usine de balles en caoutchouc et de machinisme agricole. Cette usine sera à l'origine du groupe Michelin. La première usine, construite place des Carmes en 1889, fabrique des patins de frein pour vélo. Le premier brevet de pneus pour vélo est déposé en 1891. Le siège du groupe se trouve encore à cette adresse. L'expansion de Michelin provoque la création des cités Michelin où était logé le personnel. Ces cités répondent aux objectifs de paternalisme, marqué de catholicisme dans le cas de la famille Michelin, typique du patronat de l'époque, de contrôle social du personnel. Mais plus simplement, cela permet de faire face à la très forte augmentation de la population clermontoise liée à l'expansion de l'activité industrielle. Elle passe de 52 000 en 1900 à 82 000 en 1921, et aux très mauvaises conditions de logement des ouvriers qui viennent travailler à la manufacture. Il y a 3 000 logements Michelin pendant la décennie 1930. Le 29 juin 1940, le gouvernement, qui vient de signer l'armistice le 22 juin, se replie de Bordeaux, que les conditions d'armistice placent en zone occupée, à Clermont, qui vient de fait capitale de la France, Mais la ville se révèle rapidement peu adaptée et ne plaît pas aux ministres et fonctionnaires. Finalement, le gouvernement se transfère dans les premiers jours de juillet à Vichy. La résistance à Clermont s'articule autour du quotidien La Montagne. Son fondateur, le socialiste Alexandre Varenne, ayant déclaré qu'il préférait briser sa plume plutôt que de la mettre au service de l'ennemi. Le journal subit régulièrement la censure, il est interdit de publication à plusieurs reprises. À la Libération, La Montagne aura le bonheur de pouvoir ressortir sous le même nom.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.